Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la parentèle enchantée. Je suis Cynthia et je vous retrouve tous les premiers mercredis du mois à 11h pour une émission qui vous parle de parentalité sans vous donner l'impression d'être de mauvais parents. Avec moi en studio, Rémi, le papa.
Salut, c'est nous les parents de Lou et Zoé, deux sœurs complices qui savent aussi faire l'une sans l'autre. Et ce mois-ci, nous avons aussi Christian. Bonjour Christian.
Bonjour Rémi, bonjour Cynthia.
On rappelle qu'il est bien évident qu'il y a mille façons d'être parent. N'oubliez jamais, on est le meilleur parent possible pour ses enfants et souvent les plus indignes pour les autres.
Et ce mois-ci avec Christian, donc une émission autour du souvenir et de l'imagination surtout, puisque Christian est auteur d'albums pour enfants.
Et pour ma part, je tenterai de comprendre ce qu'il se passe dans la tête de Zoé quand elle fait la sauvage.
Et toujours au rendez-vous depuis l'an dernier, et même plus, Mamilo nous proposera une chouette histoire qui sent bon le printemps. Mais d'abord, place aux brèves. Cynthia, plutôt jus de pomme ou tourtelle ?
Là, tout de suite, une bonne bière, enfin,
oui.
T'as vu ?
Non, je veux dire, pendant la grossesse. Hein.
Ah ! Oui, évidemment. Alors, plutôt tourtelle.
Il n'y a pas de message, hein. Cynthia n'est pas enceinte. Hein.
Non.
Mais pendant la grossesse, c'était tourtelle. Eh bien, tu sais qu'il existe le logo pour interdire de boire pendant la grossesse sur les bouteilles. Eh bien, en Bretagne, il y a une productrice de cidre artisanal qui refuse d'apposer ce logo. Elle est passée au tribunal ou elle va passer au tribunal. Elle explique de façon militante que les femmes n'ont pas à être rabaissées infantilisées en les discriminant sur une bouteille de cidre.
Bon, après tout, il n'existe pas de logo qui interdit aux mecs d'aller crier des injures devant un match de foot après avoir vu un pack de 16.
Oui, c'est ça, t'as raison. Tiens, si je te dis éducation bienveillante et cuicui les petits oiseaux, tu me dis...
Montessori.
Une autre.
Filiosa.
Yes, c'est d'elle qu'il s'agit. Ouais, enfin, je voudrais bien la voir d'ailleurs quand Zoé nous fait une colère. Une tempête émotionnelle, pardon. Eh bien, Filiosa semble traverser une petite tempête, justement, car de nombreux psys et pédopsies s'interrogent désormais sur des parents désemparés par les trop nombreuses injonctions qui sont faites à eux. Et elle est maintenant sous le feu des critiques.
Eh oui, comme pour tout, il faut bien prendre des distances avec les conseils en tout genre que l'on peut subir dans la parentèle. En tout cas, on évite toujours d'en donner.
Eh oui, et les enfants jouent moins. Ouais, c'est le constat de plusieurs recherches menées aux États-Unis.
Les chercheurs mettent ainsi en garde contre la diminution du temps consacré aux jeux libres.
Pour ces chercheurs, le jeu surguidé, les jeux vidéo, mais pas seulement, hein, les temps définis où l'enfant doit jouer à ça, puis à ceci, augmenterait la dépression et l'anxiété chez les jeunes.
Dans une tribune de conversation, les psychologues de l'éducation rappellent d'ailleurs que le jeu est indispensable à notre condition humaine, mais qu'il est aussi reconnu comme droit de l'enfant par les Nations Unies.
Et jouer, mais aussi écouter des histoires, sont en effet indispensables. D'ailleurs, voici l'histoire de Mamilo.
Salut les jeunes ! Le frêne. Dès que la neige commence à fondre et que le soleil réchauffe la terre, les habitants de la forêt célèbrent la venue du printemps. Les jacinthes et les jonquilles se mettent à fleurir dans leurs jolies robes bleues, roses ou jaunes. Les oiseaux sortent de leur nid et chantent gaiement en voletant de branche en branche. Les loirs se réveillent et sortent du long engourdissement de l'hiver. Les arbres aussi se préparent. Ils revêtent leur nouvelle parure pour être élégants lors de cette grande fête. Les plus impatients et les premiers à bourgeonner sont les saules et les joncs qui poussent au bord de l'eau. Ainsi, ils peuvent se mirer à loisir et jouer les dandys. Puis viennent les bouleaux au corps mince et élancé, comme celui des danseuses. Leur feuillage argenté les distingue des autres arbres. On dirait de jeunes filles poudrées, impatientes d'aller valser. Il fallut un peu plus de temps au vieux chêne centenaire pour se préparer. Il hésita longtemps avant de choisir la tenue qui le flatterait le plus. Enfin, il se fit faire par un tailleur habile un feuillage dentelé qui le faisait ressembler à un respectable académicien. Il n'y a qu'un arbre qui ne s'était occupé de rien. Il continuait à dormir, comme si la neige tombait encore ou que le brouillard régnait en maître. C'était le frêne que n'avait réveillé ni le gazouillis des oiseaux, ni le bourdonnement des abeilles. Il continua même à dormir lorsque la douce pluie de mars entreprit de rafraîchir la forêt. Il fallut que la brise tiède aille chercher du renfort auprès d'un vent énergique pour que le frêne sorte de sa léthargie. Alors, il ouvrit timidement un œil et s'étonna de voir, tout autour de lui, les arbres qui avaient verdi. « Déjà, nous sommes au printemps ?»« Eh oui, grand paresseux, » répondirent les bouleaux. « Nous sommes tous prêts, habillés, pomponnés. Dépêche-toi, ou tu ne trouveras rien à te mettre. Tu ne peux pas rester ainsi, nu comme un ver. » Et les bouleaux se mirent à rire, bientôt suivis par les joncs et le chêne. Alors le frêne, de peur de ne rien trouver, se prépara à la va-vite, tellement vite qu'il ne prit pas le temps de faire des essayages, ni même de choisir des feuilles à sa taille. Elles étaient petites, peu découpées, et le feuillage n'était pas assez touffu pour dissimuler sa nudité. Les joncs, les bouleaux et le chêne se moquèrent de lui. « On dirait que tu n'es qu'à moitié habillé. Il te manque des feuilles. On aperçoit ton tronc et presque toutes tes branches. Ouh, il est presque nu. » Mécontent, le frêne reconnut que sa tenue laissait à désirer. Aussi, il résolut de se débarrasser très vite de ses feuilles lorsque viendrait l'automne. Et en effet, à la fin de l'été, au moment où les jours raccourcissent, mais alors que le soleil est encore chaud et que les vendanges commencent à peine, le frêne s'impatienta. « Est-ce l'automne ? Ne sentez-vous pas souffler le vent du nord ?»« Attends un peu, » lui répondirent les autres arbres. « Laisse-nous profiter encore du beau temps et de notre belle parure. L'hiver est si long, nous aurons si froid, et plus de feuillage pour nous tenir au chaud. » Mais le frêne s'en moquait, contraire. Trop content de se défaire de son vêtement raté, il perdit toutes ses feuilles et se dressa tout droit dans la forêt, attendant l'hiver. Autour de lui, les joncs, les bouleaux et le chêne luttaient de toute leur force contre la brise pour garder le plus longtemps possible toutes leurs feuilles. Mais le frêne, étourdi, n'avait tiré aucune leçon de son expérience. L'année suivante, à la fin de l'hiver, il dormait encore. Et il oublia de se préparer à temps. Encore une fois, il resta mal habillé tout l'été et fut le premier à se déshabiller lorsque les jours raccourcirent.
Salut les jeunes! Oui, mon petit, c'est la vie!
Vous souvenez-vous de vous petit? Étiez-vous un enfant sage ou une mini-tornade? Vous rappelez-vous des lieux de vacances de votre enfance? Pouvez-vous retrouver le goût de vos goûters d'antan ? On est tous des êtres de souvenirs. Nos souvenirs, c'est la base de qui nous sommes. C'est le retour aux sources perpétuelles que chacun de nous peut faire en son intérieur. Quand on se souvient d'un moment précis de son enfance, il y a souvent un tas de sensations qui s'en suivent. Le vent dans les cheveux, l'odeur émanant de la cuisine, certains détails de l'endroit. Mais pour autant, aussi précis soit-on dans nos souvenirs, peut-on dire pour autant qu'ils sont tout à fait justes ? C'est marrant comme chez moi, les bons souvenirs sont précis et les moins bons, beaucoup plus flou. Je peux dire ce qu'il s'est passé à tel moment, mais je ne suis pas capable de m'y projeter, de ressentir à nouveau mon sentiment du moment. Je ne sais pas vraiment si ça a trait à mon caractère plutôt optimiste ou si c'est le cas pour tout le monde, mais chez moi donc, mon catalogue de souvenirs est plutôt joyeux. En tant que maman, j'espère que mes filles aussi pourront se remplir un joli catalogue de souvenirs pour nourrir leur adulte de demain de doux fondements. Surtout quand je vois avec quelle précision Lou se souvient des choses. À 5 ans et demi, elle arrive à nous parler avec précision d'événements qui se sont produits lorsqu'elle avait 2 ans. J'ai toujours trouvé ça fou. Mais pour le moment, on pourrait plutôt dire qu'elle a une bonne mémoire. Je ne suis pas sûre qu'on soit déjà sûr du souvenir. Vous allez me dire, quelle différence? Pour moi, entre la mémoire et le souvenir, il y a justement cet univers de sensations qui s'y dégage. La mémoire, c'est factuel. Le souvenir me permet de me replonger dans l'instant vécu. Finalement, j'ai peut-être la mémoire des événements moins sympas de ma vie, là où j'ai gardé de réels souvenirs des belles choses. Après, c'est ma définition et j'imagine bien qu'elle ne conviendrait peut-être pas à tout le monde. Mais je me tente quand même à un deuxième point de comparaison, si vous me le permettez. Le souvenir, pour moi, c'est plutôt un truc d'adulte nostalgique, alors que l'enfant, lui, il est plutôt dans l'imaginaire de ce que sera demain. De l'imaginaire chez l'enfant, il en déborde tout le temps. Il écrit des petites histoires dans sa tête, il change de rôle en permanence et surtout, il imagine ce qu'il sera demain. Lou, si on l'écoute, elle devrait passer environ 7 licences, 10 masters et 5 CAP pour pouvoir faire l'ensemble des métiers qu'elle projette sur sa vie d'adulte. Mais c'est en se projetant vers le futur de 1000 façons différentes qu'elle construit doucement celle de demain. L'imaginaire pousse l'enfant à se penser autre, à sortir de soi, à s'autoriser à être qui il veut, sans aucune barrière mentale que nous, les adultes, on a parfois. L'enfant s'en fiche de savoir s'il y aura un crédit ou non à payer à la fin du mois. Lui, il change de carrière aussi souvent que ça lui chante. D'ailleurs, je me demande à quel moment on arrête d'imaginer sa vie future pour ouvrir la porte aux souvenirs. À quel moment on ne se projette plus vers l'avant mais vers l'arrière. Est-ce vraiment si net? Ou cela dépend-il du moment?
On y va. 1, 2, 3. C'est ma jeunesse à user mes souliers au large de l'allégresse. Chantais tant de souvenirs me restent de ces années passées que parfois je regrette. Tu sais d'avoir troqué mes guerres contre un blason doré. Me suis-je fané peut-être? Qui sait? Qui sait? Seuls les chevaux sauvages sous la pluie diluvienne au fil de l'eau sous la mes peines, oui, les chevaux sauvages, sous la pluie diluvienne, au fil de l'eau, ménage, mes peines. J'ai tant aimé l'écume et le goût du silence, attiré par la lune. Lente. J'ai caressé mes rêves de mes mains abîmées comme du bout de mes lèvres. Mes lèvres gercées au large, la tendresse semble s'être envolée. J'ai tenu ma promesse. Qui sait? Qui sait? Seuls
les chevaux sauvages
sous la pluie diluvienne au fil de l'eau soulage mes peines, oui,
les chevaux sauvages
sous la pluie diluvienne. Voici revenu à l'ombre des Cévennes, au pied du mât perdu. Je sème quelques graines du passé pour m'ouvrir au futur. Je ne veux rien te cacher, c'est dur. Repartirai-je un jour humer les champs de blé? Attend-il mon retour? Qui sait? Qui sait? Seuls
les chevaux sauvages
sous la pluie diluvienne.
C'était Barchella, les chevaux sauvages, un titre juste à propos de 2018. Et puisque ce mois-ci, on titille l'imaginaire et le souvenir, nous allons poursuivre avec Christian Tisserand, que nous avions déjà reçu il y a 2 ans, et que nous accueillons cette fois-ci pour une cocotte. Comment vas-tu, Christian ?
Eh bien, écoute, très bien, je te remercie. Je suis heureux comme un papa qui vient de partager les 3 jours de ce long week-end du 1er mai avec ses enfants et leurs copines, leurs copains, pour jouer dans le parc ou sur les pelouses autour de la maison.
C'est vrai que c'était bien sympa.
N'est-ce pas ? D'ailleurs, il me semble t'avoir aperçu.
C'était bien ça.
Assieds-toi, Cynthia.
Cynthia nous parle à l'instant de l'imaginaire chez les enfants. Et aussi douée que Cynthia, Jean Piaget, psychologue du développement, a étudié en détail les étapes du développement de l'enfant. Et il insiste sur les phases de développement de l'imaginaire chez l'enfant, qui vont en gros des premiers mois à 8 ans. Et cet imaginaire passe par les différentes représentations, disons simplistes, que l'enfant va se faire pour aller jusqu'à des constructions plus sociales, imbriquées avec des relations de causalité. Et en élaborant à travers une activité onirique des scénarios, des essais, des tentatives, des fantasmes, l'enfant va construire son imaginaire. Et Gaston Bachelard, c'est un philosophe des sciences, de l'éducation et de la poésie, c'est pas joli de rattacher les sciences et l'éducation à la poésie, disait que la rêverie est un univers en expansion, un souffle de parfum qui émane des choses grâce à un rêveur. Chez nous, chez toi Christian je crois, et chez vous, chers auditeurs et auditrices, avant les rêves viennent le coucher, et avant le coucher viennent l'histoire. Et donc Christian, si on t'a invité, c'est justement parce qu'un soir, en essayant d'attraper un livre, t'as eu le coup de la panne, si on peut dire, et tu t'es retrouvé sans rien à lire aux enfants. Comment tu t'en es sorti ?
Alors en effet, ça avait été un week-end pluvieux, donc on avait passé les 2 jours à lire, relire et relire les livres. Et voilà, au coucher, ben, plus rien. Et Robin, le plus grand des deux, qui avait 3 ans à l'époque, me dit « Papa, t'as qu'à m'inventer une histoire ». Facile à dire, facile à dire. Et comme on allait très régulièrement voir les poules et les lapins sur le marché le mercredi, j'ai eu l'idée d'inventer comme ça une petite histoire de cocotte, donc de petites poules blanches avec des pattes bleues et la crête rouge, hein, bien sûr, on est en Bresse. Et cette petite poule aventureuse, donc voilà, ben je la faisais quitter la ferme discrètement sans se faire voir par les parents, donc un petit peu transgressait certaines règles et donc allait se balader, partir en ville. Voilà, découvrir la grande ville. Et cette première histoire leur a plu, puisque le lendemain, ils m'en ont demandé une deuxième, puis le surlendemain, une troisième, ainsi de suite, jusqu'à 30 histoires. Ah ouais. Et au bout de 30, quand même, j'ai trouvé une façon d'arrêter, parce que je commençais à être en panne.
Et donc, pour le coup, tu as fait marcher ta créativité d'adulte pour proposer donc, cette première histoire. Et du coup, il y en a 30 autres qui ont suivi, c'est ça ?
Exactement, exactement, ouais.
Et alors cette histoire, forcément, enfin ces histoires, elle a une source, toute imagination a une source. Tu vois, ça a été quoi ta source d'imagination ?
Alors exactement, je m'en suis pas rendu compte dès les premières histoires, mais c'est vrai que j'avais besoin de points de repère quand même pour continuer à inventer des histoires. Et un jour, j'ai pris conscience d'un truc, c'est que tout simplement, je racontais l'histoire de la ferme dans laquelle je passais une bonne partie de mes vacances et de mes jeudis, puisqu'à l'époque c'était encore les jeudis, et puisque c'était donc des parents de mes parents, enfin des amis de mes parents qui gérer une ferme à Certine.
D'accord.
Et c'est la ferme où j'ai passé des moments merveilleux. Et finalement, bah, j'ai donné à Cocotte certains de mes souvenirs.
D'accord. On pourrait presque dire que Cocotte, c'est toi ?
Disons que voilà, j'ai une belle cocotte. Je pense que j'aurai une médaille au prochain concours des Glorieuses.
Et tu t'es pas arrêté là, finalement, à ces histoires que tu racontais. T'es passé de l'oral à l'écrit ?
Alors, c'est vrai que il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'écrire un premier petit bouquin très modeste sur mes souvenirs de gamin, là pour le coup, donc à la caserne des pompiers, et je l'avais édité à compte d'auteur de manière tout à fait artisanale. Et donc je m'étais dit, ben, ça serait bien que les petits gardent une trace de ça, et j'avais l'idée de faire ce genre de bouquin. Et puis un beau jour, par hasard, j'ai rencontré une illustratrice qui a elle aussi fait un livre pour enfants, et on en a parlé, on a sympathisé, elle a bien compris ce que je souhaitais, donc elle s'est chargée des illustrations, donc ça a commencé à prendre vraiment tournure pour le coup. Et puis un beau jour, elle m'a parlé de son éditeur. Alors je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais dans tous les cas, cet éditeur a souhaité me rencontrer. Bon, je lui ai dit, bah voilà, j'envisage d'éditer, mais voilà, simplement, modestement, à titre, à compte d'auteur. Et en lisant le bouquin, et très modestement, en me rencontrant, il a beaucoup apprécié, le bouquin, le bonhomme, et il m'a proposé d'être l'éditeur du livre, donc c'est sur les rails, il devrait sortir prochainement, c'est prêt en tous les cas.
Et le nom de l'éditeur ?
Alors c'est la société Edison, ils sont basés à Dijon, Ils ont un catalogue assez vaste, en fait, mais ils sont surtout sur l'édition locale. Donc là, ils sont en train de travailler sur les Sœurs Tranchant, célèbrement connues à Bourg, donc pour sortir un livre. Ils ont pas mal d'autres livres comme ça sur des personnalités locales. Et Cocotte fait partie de leur panel maintenant de personnalités locales.
Et l'illustratrice, elle s'appelle comment ?
Alors, Valérie Guret. Son entreprise, donc, c'est Val Esquisse.
D'accord.
Donc, elle a fait un livre qui, de mémoire, s'appelle « Les voyages d'Ombeline ». Qui est assez poétique comme livre. Et puis à côté de ça, donc elle fait beaucoup d'illustrations. Elle a fait dernièrement une exposition sur des femmes emblématiques, Angela Davis, Simone Veil, etc. Enfin, des femmes qui avaient des messages à porter. Et donc, elle a été présente à la MCC et tout dernièrement, donc, à la Tannerie. Et c'est une personne qui est capable d'aller dans des univers très différents.
Mais... D'accord, c'est les œuvres qu'on peut voir au Café de la Tannerie.
Au Café de la Tannerie, exactement, c'est elle.
Et dans cet album de littérature jeunesse, est-ce qu'il y a des valeurs, des idées fortes qui te correspondent, que tu cherches aussi en fait à véhiculer ?
Alors, oui, c'est vrai qu'on pourrait dire, c'est quand même pas trop sympathique, puisque finalement c'est une cocotte qui désobéit à ses parents, puisqu'elle sort. Mais malgré tout, donc d'une part, elle est assez prudente, puisqu'il lui arrive tout un tas de petites aventures, bien évidemment, pendant qu'elle descend sur la ville et quand elle va découvrir les différentes choses, puisqu'en effet, tu l'as évoqué tout à l'heure, le premier livre semble vouloir rencontrer un peu son public. Donc, il y aura probablement d'autres, au moins une série de 8, je ne ferai pas les 30, mais je pense qu'on ferait une série de 8. Et donc, à chaque fois, donc voilà, il y a des conseils de prudence dans la façon d'être quand on est un petit peu à l'extérieur et un petit peu loin de ses parents. Il y a aussi la franchise, c'est-à-dire qu'on assume ce qu'on fait, on assume les petites bêtises qu'on peut faire aussi, la curiosité, l'envie de comprendre et de découvrir ce qui l'entoure, ce qui est autour d'elle, et puis le partage avec les autres animaux de la ferme qui revient. Je me suis un peu inspiré d'Astérix et Obélix. Mmh. Hein, donc le début et la fin du livre, des livres, seront toujours un petit peu identiques. En tous les cas, il y aura les mêmes...
C'est-à-dire qu'on est en Bresse, on mange bien à la fin, c'est ça ?
Alors, disons que c'est plutôt les poignées de graines proposées par la fermière. Mais
chacun sa table.
Chacun sa table, exactement.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Christian. Est-ce que tu peux nous dire comment se procurer donc les aventures de Cocotte ?
Oui, alors effectivement, le livre va être présenté sur le site donc www.edisen.fr. Après, il va y avoir une distribution de flyers assez importante. Il y en a déjà eu une qui a été faite sur les réseaux sociaux. Les médiathèques de Bourg m'accueillent avec beaucoup de plaisir, apparemment. Donc, on les trouvera aussi par le biais des médiathèques. Et puis, d'autres filières, entre autres l'office de tourisme, le monastère royal de Brou, puisque la première histoire, en fait, Cocotte va visiter le monastère royal.
Oui.
Donc voilà, ils sont au courant, ils attendent avec impatience de le trouver. Donc il y aura différents endroits de Bourg et les librairies. On verra comment elles nous accueilleront.
Et tu peux te rendre disponible aussi pour des séances de dédicaces, de rencontres.
Oui, tout à fait. Alors, comme tout bon papa, je ne suis pas forcément toujours très, très disponible, mais je ferai ça avec plaisir. Ouais, donc, j'ai quelques écoles, j'ai un bon ami dans l'enseignement.
On ne citera pas de nom.
Qui m'a un petit peu branché sur ce genre de choses. Ouais. Ça serait très bien.
Eh bien, très bien. Et nous, on va aussi laisser quelques bons de souscription à la radio et sur notre page. Histoire qu'on puisse donc faire des précommandes, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, ouais.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Christian.
Mais je vous en prie.
Et nous, on va se demander si on sortait.
On ne peut rien faire quand on est petit.
Oui. Et si on sortait, c'est une rubrique qui a disparu à la faveur du confinement. Mais l'actualité culturelle locale mérite bien une petite rubrique de temps en temps. Et nous avions reçu Anaïs pour nous parler du festival Hérissons-nous. Ce samedi, dans le cadre de ce festival au centre social Le Plateau à la Madeleine, à Bourg, la compagnie Anidar vous propose dans sa caravane le plus petit carabaret du monde avec ventriloquie, théâtre d'objets. Il y a en tout 4 représentations de 14h à 18h et c'est à partir de 6 ans. Les places sont quand même bien limitées vu que c'est dans une caravane. Oh tiens, vous nous connaissez bien et vous savez qu'on est des grands fans des ogres de Barbac. Eh bien, les Ogres de Barbac, ils sont à Ambérieu du 12 au 14 mai. Et si les 4 spectacles sont complets, n'hésitez pas à venir vous plonger dans l'univers de Pitocha, puisque du vendredi au dimanche, vous pourrez assister gratuitement à des batucadas, à des concerts de la fanfare Only, de l'école de musique, des spectacles des dindes de Bamako. Oui, on passe des cocottes aux dindes de Bamako. Et il y aura même une ménagerie, comme quoi. Donc, c'est le week-end d'après à Ambérieu du 12 au 14 mai, sous chapiteau, évidemment. Et toujours sous chapiteau, aux arrières de Brou, le week-end suivant, c'est Brin de Cirque du 16 au 25 mai, avec le spectacle des élèves de l'ETAC et des compagnies professionnelles. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site du festival etac01.com ou en passant directement derrière le monastère de Brou.
Allô, bébé ?
Ici papa.
Oui, oui, Lou. Oui, oui, moi aussi, j'ai les oreilles en miettes. Et franchement, c'était pas très malin d'intervertir le yaourt framboise avec le yaourt abricot. Oui, je sais, yaourt, mais t'en as, et alors ? Si Lou t'avait donné le rouge, t'aurais préféré l'orange, non ? Oui, si elle t'avait filé l'orange, t'aurais voulu le rouge. Yaourt, oui, Zoé, ça fait 5 minutes que tu hurles yaourt, c'est comme ça, Zoé. De toute façon, Lou, il est fini, hein, ton yaourt, on est d'accord ? Non, non, non. Alors, attends, je vais renverser le yaourt de Lou dans un verre et on va essayer de tricher en te proposant le yaourt orange dans le pot rouge. Ah, regarde, Zoé, on trouve toujours des solutions. Non ? Non ? Même le pot rouge, tu le veux pas, Zoé ? Sans tricher ? Yaourt, mais pourquoi yaourt, Zozo ? Allez, Lou, s'il te plaît, monte te coucher, va à la sieste, on va essayer de faire redescendre la tension avec ta sœur. On se calme, Zoé. Un câlin, peut-être ? Oui, voilà, ma puce. Ça va mieux ? Regarde dans quel état tu te mets. Hein ? Hein ? Quoi ? Quoi ? Yaourt, encore ? Ah non, 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 non. Ne recommence pas, s'il te plaît. Si ? Non, mes oreilles, Zoé, calme-toi. Tu veux quand même manger le yaourt, c'est ça ? Bon. On te remet à table ? Avec le yaourt ? Ah non, mais te voilà à faire le ver de terre et à te glisser de la chaise. Non, Zozo, regarde dans quel état tu en baves, stop. Et oh, regarde mon papa de papa qui se fâche, hein. Comment ? Ça n'a aucun effet ? Ça me fait même bégayer, c'est ça. Allez, reviens dans mes bras, on va se bercer. Hein ? Vent frais, vent du matin. Et voilà. Et je m'allonge maintenant, serré dans mes bras. Ça marchait quand t'avais 3 mois. On va peut-être essayer. Ah ben. Ben voilà, comme quand t'avais 3 mois, t'es tellement excitée que tu réussis à t'endormir. Cynthia, je crois que c'est gagné. Je vais tenter de la coucher dans son lit. Elle s'est tellement épuisée à gérer sa tempête émotionnelle qu'elle va dormir à... c'est quoi ses yeux ouverts ? Zoé ? Quoi ? Yaourt ? Ça recommence. Désolée Cynthia, je passe le relais.
On vit des histoires de dingue, des histoires qui nous vident pleinement. On vit des choses qui flinguent, des choses qui sévissent à tout moment. Alors vivre son temps, c'est pas toujours tout rose apparemment. Alors on vit pourtant, on vit tout simplement. On vit, c'est pas toujours dingue, mais c'est la vie, faut croire, c'est suffisant. On vit de prendre ce flingue, de se le mettre entre deux tempes et bon. Alors on vit pourtant, on vit de tout ça et ça se comprend. Alors on vit son temps, on vit tout simplement.
On rit et parfois c'est dingue, en chantant les douleurs qu'on ressent. On rit même si ça flingue, ça chasse nos douleurs et ça détend.
Alors on rit souvent, on pleure, on rit, on marche et l'on attend.
Alors en attendant, on vit tout simplement. On vit des questions de dingue, on vit pourquoi, pour qui et pour autant. On vit de questions qui flinguent, pour des questions parfois on vit de sang. Alors on vit de temps, on vit de vivre cette vie pourtant. On vit d'être un enfant, on vit tout simplement.
On vit de parfois c'est dingue, on vit de trois fois rien c'est suffisant. On vit de poser son flingue, de ne plus rien entendre assurément.
Des mots, des boniments, des histoires qui salissent saignent à blanc.
Des légendes et du vent, on vit tout simplement.
On vit des histoires de dingue, des histoires qui nous vident pleinement.
On vit des roses qui flinguent, des roses qui fleurissent à tout moment. Alors vivre son temps, alors on vit de tout, ça se comprend. Alors on vit son temps, on vit tout simplement.
On vit, c'était un jour dingue. On vit des éclairs, des larmes et du sang. Des enfants vidaient leurs flingues.
En criant que leur Dieu est le plus grand.
On vit tomber pourtant.
Les bras ballants tombés dans les deux camps.
On vit tous ces enfants saignés du même sang.
On vit des histoires de dingue.
Des histoires qui nous vident pleinement. On vit des choses qui flinguent.
Des choses qui sévissent à tout moment. Alors on vit pourtant.
Envie de voir cette vie qui t'attend. Alors toi mon enfant,
va, vis tout simplement.
Et si bébé pouvait parler, elle vous dirait sûrement « Moi, j'aime pas les gens ». Bah quoi, c'est pas parce que je suis un bébé que je suis forcément obligée d'être mignonne et de sourire à tout le monde. Hein. Je vois bien que les autres voudraient bien m'approcher, mais moi, si je te connais pas, tu m'approches pas. C'est tout, c'est comme ça. Bon, en même temps, c'est pas avec cette stratégie que je risque de mieux les connaître, moi, les gens. Bah oui, mais j'y peux rien. J'aime pas les inconnus. Enfin, j'aime pas l'inconnu avec un grand i tout court. Mais ça, c'est une autre histoire. Comment je peux savoir, moi, si ce sourire est sincère et si la personne qui me le fait ne se dit pas « Oh, elle est bien dodue, j'en ferai bien mon 4 heures ». Après tout, si l'expression « je ne vais pas te manger » existe, c'est bien qu'il y a une baleine sous caillou, non? Si tu as besoin de le préciser, c'est bien que dans d'autres circonstances, tu aimerais bien me croquer un petit peu quand même. Bref, quand il y a des nouvelles personnes qui viennent à la maison, par sécurité, je reste collée à papa et maman. Et puis, pour dissuader mon prédateur, je lui lance des regards appuyés bien droit dans les yeux. Haha, on va voir qui va gagner la bataille. Pas mince alors. Plus je m'évertue à essayer de paraître menaçante, plus ça fait rire mon auditoire. Je crois qu'il va falloir que je revoie ma stratégie sur ce coup-là. Comment ça, papa, je suis encore plus mignonne à croquer quand je boude? Non mais oh, vous dites que je suis une sauvage, mais c'est vous les cannibales au final. Vous vous rendez compte des efforts surhumains que je fais pour ne surtout pas paraître appétissante? Sont fous ces adultes, je vous jure. Allez, je vais aller coller ma grande sœur plutôt. Elle au moins. Je suis sûre que si on touche ne serait-ce qu'un de mes cheveux, c'est elle qui les bouffera tout cru.
Et tu confirmes qu'elle est comme ça, notre vieux Christian?
Un peu ça, c'est un peu ça.
Eh bien, merci à toi d'être venu, Christian.
Merci à vous de l'avoir invité.
On te souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure littéraire. Et quant à nous, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de radio-eb.fr.
Ou sur notre page Facebook en tapant simplement « La parentèle enchantée ». Au revoir Christian et à la prochaine.
À la prochaine, au revoir.
À la prochaine, bisous.